Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotech
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Shoshana Bukobza pour son film « Les évadés de Ravarushka » réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui sera présenté en avant-première au Mémorial de la Shoah à Paris le 15 mai prochain à 16h30 en votre présence et en présence d'Annette Viviorka. Ce sera d'ailleurs une après-midi entière qui vous sera consacrée, Shoshana Bukobza, parce qu'à 14h30, vous présenterez également votre dernier livre, HK, récit paru l'année dernière aux éditions des Arènes, qui raconte l'histoire de Guy, un enfant recueilli par Antoinette Brun, connue pour l'affaire des enfants Finani, et dont vous nous racontez la passionnante quête des origines. Alors, à chaque nouveau projet, vous arrivez à nous faire découvrir des choses totalement inconnues, y compris des spécialistes. Et cette fois, dans ce documentaire sur les évadés de Ravarushka, vous avez retrouvé des témoins français de l'extermination des Juifs de Galicie. Il s'agit de 8 prisonniers français, aujourd'hui presque tous... Prisonniers de guerre, absolument.
C'est très important.
Presque tous centenaires, qui ont été détenus donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le Stalag 325 à Ravarushka, en Galicie, envoyés à l'Est parce qu'ils avaient tenté à plusieurs reprises de s'évader de leur lieu de détention en Allemagne. Et c'est par mesure disciplinaire, on peut dire ça, parce qu'ils étaient de fortes têtes, qu'ils ont été envoyés en Ukraine. Au moment où ils commencent leur récit, nous sommes à peu près en juin 1941, l'opération Barbarossa vient de démarrer, les nazis envahissent l'Union soviétique et ces prisonniers que vous avez rencontrés vont être les premiers témoins des atrocités commises.
Non, pas comme ça, pas en 41, pardon.
Oui,
Parce qu'en 41, ils s'évadent des camps de prisonniers de guerre.
Et ils arrivent donc en quelle année?
Et donc, ils arrivent en avril 42.
Mais 42.
En fait, exactement comme Mitterrand. Hein, je veux dire, ils sont capturés.
En 40
En 40, en juin 40. Donc, il y a 1 875 000 soldats français capturés en juin 40. Et capturés parce que, en fait, quand il y a la signature de l'armistice, on leur demande d'aller déposer les armes dans des casernements. Et en fait, c'est une tromperie absolue, puisque là où ils se rendent avec toutes leurs armes, les Allemands les attendent, les désarment et les emmènent dans les stalags et les oflags. Voilà. Donc en fait, à partir de juin 40, c'est un chiffre absolument énorme. 1 175 000 soldats français capturés. Ils sont envoyés dans toute l'Allemagne. Il leur faut du temps pour commencer à se reprendre. Et à partir de l'hiver 40... Et fin de l'hiver, début du printemps 41, ils essayent de s'évader. Voilà. Par exemple, Mitterrand s'évadera 3 fois à partir de mars-avril 41 jusqu'au mois de décembre. Lui, il a la chance, c'est que la troisième évasion, il l'a réussi. Mais tous les témoins que j'ai contactés échouent.
Oui, c'est 8 témoins, donc c'est des récidivistes.
Ils sont 25 000. Ils sont 25 000 à avoir tenté une évasion. En fait, il n'y aura que 35 000 soldats français qui vont essayer de s'évader des stalags. Sur 1 875 000 soldats. C'est rien. Il y a eu très peu d'évasion. Et en fait, il y a eu très peu d'évasion parce que Pétain n'arrêtait pas de dire qu'il allait faire en sorte de libérer ces gens. Donc, ils se sont dit, mais pourquoi tenter une aventure dans... En Allemagne, il faut se représenter qui sont ces gens. Hein. Ce sont des paysans. Ils n'ont jamais bougé de leur pays, entre guillemets.
Certains travaillent dans des fermes, en l'occurrence.
Voilà, ils vont travailler dans des fermes. Dans ces fermes-là, il n'y a pratiquement pas d'hommes, puisque tous les hommes sont au front. Ils sont bien traités par la fermière. Certains ont une aventure avec des femmes, mais c'est très rare, parce que de toute façon, c'est puni de mort par les Allemands. Ils sont bien nourris, ils savent que dans les stalags, ils sont mal nourris, donc ils préfèrent rester dans les fermes, plutôt que d'être envoyés dans la mine. Donc il y a très peu de gens qui tentent l'aventure, et ils tentent cette aventure au moment même où les Allemands vont conquérir l'Union soviétique.
Et comment vous avez entendu parler de leur histoire à ces hommes-là qui sont arrivés à Ravarushka, donc en 1942 ?
En fait, c'est, vous savez, moi, je travaille en essayant de creuser des pistes pour mes propres livres. C'est-à-dire que je cherche des passés et des identités pour les personnages que je crée. Donc, en fait, il y a 5 ans, je suis tombée sur... je travaillais sur la sculpture, je suis tombée sur un sculpteur qui s'appelle Marcel Mayer, et j'ai vu dans ses biographies qu'il s'était évadé 5 fois et qu'il avait été interné à Ravarouchka, qui était un lieu de représailles pour les soldats français qui avaient tenté de rejoindre la France. Donc le lieu de Ravarouchka m'avait intéressée et j'ai commencé à prendre des renseignements sur ce camp, qui était un camp très particulier et vraiment... qui était pas un camp de détention, comme dit l'un des témoins, qui n'était pas un camp de répression, d'extermination, mais un camp de répression. Et jusqu'au moment où j'ai découvert qu'ils avaient créé un site, donc j'ai appelé le président de l'organisation, et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il existait encore des gens vivants. Ce qui m'a complètement soufflé, puisque en fait, si vous voulez, ils ont maintenant entre 100 et 103 ans. Et il y en a un qui a 103 ans, qui est vivant encore, mais qui est incapable de parler. Mais donc, ça veut dire qu'ils avaient une longévité absolument extraordinaire. Et donc, j'ai demandé à les rencontrer pour faire ce film. Et je me suis vraiment hâtée, parce qu'ils étaient... Il y en avait encore 8 disséminés dans toute la France, qui correspondaient vraiment à un coût très important pour pouvoir les filmer, puisqu'il fallait à chaque fois déplacer une équipe, soit dans le Pays Basque, soit dans le centre de la France, soit dans le Nord. Donc c'était un coût très important pour une société de production. Et je ne savais pas, au moment où je commençais à savoir qu'ils étaient vivants, je ne savais pas en fait qu'ils avaient été témoins de la Shoah.
D'accord, vous ne saviez pas quel serait leur témoignage, en fait.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est donc on m'a donné des livres à lire, et c'est là que je me suis aperçue que ces hommes, à partir de 1946, ont commencé à écrire, et ont raconté donc leur enfermement à Ravarouchka, et la raison pour laquelle ils reviennent totalement brisés de Ravarouchka, c'est-à-dire qu'ils ont été témoins de près d'un million de morts en Ukraine. Voilà, et des morts, évidemment, les assassinats des Juifs. Hein. Nous parlons bien des Juifs, nous ne parlons pas d'autre chose. Et peu à peu sont arrivés des rapports, parce que, en fait, tous ces gens-là ont réuni des documents sur leurs histoires, mais personne, enfin, ils n'ont pas trouvé un historien qui puisse raconter ce camp. C'est un camp oublié. Voilà, le camp de Ravarouchka est un camp oublié.
Il y a cependant peut-être juste, on peut évoquer ce témoignage dont vous faites courir tout au long du film, qui est au tout début, c'est le témoignage du sous-officier Paul Roser qui a témoigné lors du procès de Nuremberg. C'est-à-dire, il y a eu un moment où cette parole a été recueillie.
Absolument. Alors, donc ça c'est vraiment un témoignage très fort, parce que j'ai été à Washington et je l'ai retrouvé donc au NARA. Donc au National Archive de Washington, et je l'ai ramené en France. J'étais vraiment très très heureuse. Paul Roser a témoigné pendant plus d'une heure. Il a raconté ses évasions, donc il en a fait 5 lui-même. Le camp de Ravarouchka, ils ont travaillé avec des Juifs. Mmh. C'est ça qu'il faut savoir, c'est ça qui est fou, c'est que dans cette histoire-là. Les Français arrivent, ils sont soldats, ils sont en uniforme. Parce que dans les camps de prisonniers, on reste en uniforme. La Convention de Genève n'est pas respectée. Parce que normalement, les officiers auraient dû être séparés, être dans un camp pour officiers, et les soldats auraient dû être regroupés dans ce camp-là de Ravarouchka. De toute façon, on n'envoyait pas, suivant la Convention de Genève, des soldats français dans un territoire qui était... un territoire de danger permanent, puisqu'il était soumis à la guerre. Il était en effervescence. Donc ça, déjà, première violation de la Convention de Genève. Deuxièmement, donc, mélange entre les officiers et les soldats. Troisièmement, rigueur des traitements. Puis quatrièmement, travail forcé. Et travail forcé avec qui ? Avec les Juifs de Ravarouchka. Donc en fait, quand ils arrivent, la ville de Ravaruchka n'est que, ce sont des ruelles en terre battue, mais il y a un réseau ferroviaire très important qui se situe à 17 kilomètres de Belzec. Et les Juifs de Ravaruchka et les soldats français travaillent au chemin de fer, à réparer les routes. Et donc ils voient tout. Ils voient les trains courir vers Belzec. Le témoignage de Paul Rosaire est si précis qu'il peut même dire, qu'il dit, il explique même qu'il y a eu interruption du trafic ferroviaire vers Belzec. Il en donne les dates. Et quand on regarde pourquoi il y a eu interruption du trafic, on s'aperçoit que c'était le moment où les Allemands ont agrandi le camp de Belzec. Donc, en fait, vraiment, c'est un témoignage extrêmement précis qui vient qui est de la première main. Et ce sont des hommes qui sont absolument scandalisés par ce qui arrive, ce qu'ils voient. Certains viennent d'une idéologie, vous savez, antisémite, enfin, je veux dire, mais tout d'un coup, l'ampleur du massacre dont ils vont être témoins va balayer toutes leurs réserves. Pour eux, ils assistent à un crime de guerre. Voilà. Au point que l'un d'entre eux qui est mort maintenant, quand les thèses de Forisson sont sorties, a écrit au Monde en lui disant: je n'ai pas vu ce qui se passait dans les camps d'extermination, puisque je n'y étais pas, mais j'ai vu comment on a massacré les Juifs en Ukraine parce que j'y étais.
Ces témoignages qui sont particulièrement forts, certains, l'un d'entre eux raconte donc qu'il voit ces convois de femmes et d'enfants qui vont vers Belzec. Un autre raconte une nuit entière de tuerie. Est-ce qu'ils étaient prêts à parler ou est-ce que c'était un sujet tabou pour eux? Ils appellent ce camp le portail du diable. Cette parole, elle a été facile pour vous? Enfin, c'est facile pour vous de les faire parler?
Absolument, ils ne demandaient que ça. En fait, il faut savoir une chose, c'est que d'abord, ces hommes, quand ils arrivent à Ravaruchka, ils ne vont pas simplement voir le massacre des Juifs autour de Ravaruchka. Le camp est plein comme un œuf. Donc, il y a plus de 18 000 soldats français en juillet 1942. Et en août, la Croix-Rouge a réussi à obtenir un rendez-vous pour visiter le camp. Donc, le commandant du camp se dépêche donc d'éparpiller tous ces soldats vers 40 sous-camps dispersés dans toute l'Ukraine. Il y en a même à côté de Treblinka, à côté d'Auschwitz et donc à côté de Belzec. Ça forme ce qu'on appelle le triangle de la mort. Donc ils sont dans ces 40 sous-camps et toujours ces sous-camps sont installés dans des villes qui étaient des anciens shtetls, où il y a encore un ghetto et il y a surtout un nœud ferroviaire. Et ils vont même jusqu'à vivre avec des Juifs, hein,
Oui,
dans
au sein des camps.
Zlogzov.
Ils ont un étage différent, mais ils sont dans
Voilà.
le même bâtiment.
Donc ils voient tout, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas simplement Ravaruchka, mais ils vont voir l'étendue de ces massacres qui vont avoir lieu dans toute l'Ukraine et jusqu'à presque en Pologne. Et donc ces gens-là se disent: ce qu'on est en train de voir, les Allemands ne nous le pardonneront pas, ils finiront par tous nous tuer. Si bien qu'ils continuent à s'évader. Ils sont repris, ils s'évadent, ils sont repris, ils s'évadent. Et certains arrivent même en 42 en France, fin 42. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent à la Croix-Rouge. Et moi, j'ai retrouvé, parce que j'ai commencé à fouiller, je veux dire, je ne pouvais pas me contenter de la parole de ces témoins, il fallait aussi que j'aille chercher des traces de leurs paroles, parce que je savais qu'on allait me dire, mais entre 1942 et 2016, ces hommes ont eu la bouche cousue. Pourquoi tout d'un coup? Parce que les caméras arrivent, ils se mettent à parler. Or, ils ont toujours parlé, puisque je retrouve un document qui date de septembre 1943, de l'aspirant Jean-Pierre Richard, que j'ai trouvé au service historique de Vincennes. En cherchant des papiers, ce témoignage était classé très secret. Et il raconte comment, alors qu'il était dans la citadelle de Lvov, donc je vous ai dit, il y avait 40 sous-camps, il y avait donc Un des sous-camps était à Lemberg, Lvov pour les Juifs. Ils étaient enfermés donc dans la citadelle et ils vont assister à la liquidation du ghetto de Lvov et à la résistance de la jeunesse du ghetto qui va pendant 8 heures essayer de se battre contre les SS qui arrivent avec des lance-flammes pour liquider le ghetto. Et c'est un témoignage bouleversant qui fait 6 pages où il raconte qu'il a vu des monceaux de morts. Mmh. Voilà. Il a été envoyé à la Croix-Rouge. Ce document a été vu par la Croix-Rouge, puisqu'il y a vu avec une croix. Il y a un tampon classé très secret. Il a été probablement envoyé à Londres. C'est tout ce qu'on sait. Voilà. Et puis, il n'y a rien eu d'autre.
C'est un témoignage d'un soldat français. Donc.
En 43. Puis ensuite, il y a celui de Paul Roser en 45. Et puis ensuite, quand ils sont rentrés, mais brisés, hein, il y en avait un qui avait perdu, enfin les soldats français dont je parle, il y en avait un qui a perdu une oreille, l'autre avait les pieds gelés, le troisième était dans un choc traumatique très important, il y en avait ceux qui pleuraient toutes les nuits parce qu'ils avaient vu des choses terrifiantes. Il y a ceux qui ont dit bah, il faut aller de l'avant, qui ont créé une association, et cette association se réunit une fois par an, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Puisque maintenant, c'est les fils et les filles qui se réunissent. Et ils n'ont pas cessé de parler du massacre des ghettos dont ils ont été témoins. Et personne n'a jamais cherché...
Aucun historien... C'est-à-dire que là, c'est un matériel incroyable quand même, justement, pour ces témoignages. C'est ça qui est très frappant aussi dans leur témoignage, c'est que c'est extrêmement présent dans leur mémoire. C'est quelque chose qui... Je crois qu'ils ont des repères de date également. Et au-delà de l'émotion qu'ils suscitent, ils ont comme une mémoire intacte de ce qui s'est passé.
Ah ouais, c'est terrible. C'est terrible. D'abord, ils sont très très forts. C'est des témoignages, une puissance inouïe. Il faut dire que ces hommes qui, en 100 ans, sont très beaux. Ils sont pleins d'humour, pleins d'énergie. Ils montent des étages. Enfin, il y en a un qui est perché au 5e étage et il monte et il descend ces 5 étages deux fois par jour, sans aucun souci. Ils portent très peu de lunettes. Ils ont une audition parfaite. Je veux dire, c'est vraiment... c'est des intrépides, hein. Mmh. C'est des gens qui...
Des fortes têtes.
Donc. C'est des fortes têtes. D'ailleurs, leurs femmes les appellent des têtes de Rava quand elles veulent dire que vraiment, c'est des gens qui sont désobéissants. Et ils ont, ils ont vécu une expérience qu'ils n'ont jamais oubliée. Et ils disent d'ailleurs avec... parce que, en fait, si vous voulez, ils ont été... les nazis les ont poussés à commettre des actes qui les ont révoltés. Par exemple, aller briser les cimetières des juifs.
Ça, pour... c'est un épisode incroyable. Effectivement, le chef de camp ne veut plus se salir les bottes lors de l'appel, donc sur la place d'appel. Et allez-y, pardon, je vous ai interrompu.
Non, voilà, il veut plus aller. Donc la première chose qu'il fait, c'est de pousser les soldats vers les cimetières des juifs. Les Juifs avaient de très belles pierres tombales, extraordinaires, des cimetières formidables, d'une beauté, puisque moi j'en ai vu à Tarnopol, j'ai vu celui de Ravaruchka, j'ai vu celui de Strich, avec des pierres tombales hautes de 4 mètres. Il faut 6 hommes pour soulever la pierre tombale, et ça a pavé les routes de Ravaruchka, de Lvov, de Tarnopol, de... Enfin, voilà. Donc, il reste quelques pierres tombales dans quelques cimetières. Quand on a été filmé avec l'équipe à Tarnopol, par exemple, on était bouleversés parce que sur les grilles qui entourent le cimetière, des grandes publicités proposaient d'aller au garage d'à côté. Voilà. Donc, il y avait des pierres qui étaient taguées. L'historien nous a raconté qu'en fait, à Tarnopol, il y avait deux groupes qui s'affrontaient, non-juifs, hein, ceux qui taguaient et ceux qui venaient nettoyer les tags. Mais bon, je veux dire, l'Ukraine, c'est un lieu qui est un lieu terrifiant, quoi. Voilà, c'est un lieu terrifiant. On est revenu très bouleversé, on s'est dit... parce qu'en fait, le massacre des Juifs d'Ukraine a été pratiquement total. 99% du judaïsme ukrainien a été anéanti. Mmh. Il n'est resté très peu de gens. Simon Wiesenthal, par exemple, faisait partie de la communauté juive de Lemberg. Il a été déporté, il a été envoyé au camp de Janowska, qui était juste à côté du ghetto de Lemberg. C'était un ghetto de travailleurs, où les conditions étaient extrêmes. Il pesait 45 kilos quand il a été envoyé dans un autre camp et puis bon, finalement libéré. Mais ils sont restés très peu. Et c'est pour ça que Wiesenthal a essayé de rechercher les bourreaux pendant toute sa vie.
Il y a aussi dans votre film des images d'archives, je ne sais pas, inédites, je crois.
Tout à fait inédites.
Ça, c'est absolument incroyable aussi. Comment vous les avez trouvées? D'où elles proviennent? Des images du camp, de la vie à Ravaruchka?
Alors, il faut savoir que les Allemands, quand ils sont partis donc, dans la conquête de l'Est, vers l'Union soviétique, avaient emporté avec eux des appareils photo.
Ils voulaient documenter.
Non, ils avaient. C'est-à-dire que l'appareil photo en 1940-42 ressemblait aujourd'hui au portable. Tout le monde en avait. Enfin, dès qu'on avait un peu d'argent, on s'achetait un appareil photo.
Ah, vous voulez dire les soldats individuellement, c'est
les
ça
soldats les soldats allemands.
D'accord.
Les soldats allemands.
Oui, bien sûr, oui.
Voilà. Ça, c'est une première chose. Donc, en fait, il y a plein de photos. Des massacres qui existent, qu'on peut trouver d'ailleurs à Yad Vashem, à l'USHMM à Washington, au NARA, etc. Ça, c'est une première chose. Donc, eux-mêmes ont filmé au point que, à un moment donné, de toute façon, chaque fois qu'il y avait une tuerie, les Allemands se précipitaient et regardaient ça comme au spectacle, au point que Berlin s'en est ému et a décidé, à partir de 1943, de donner plus de discrétion aux tueries, et deux, d'empêcher les soldats allemands de photographier ces tueries. Mais il faut savoir, comme dit d'ailleurs plusieurs historiens, que dans le portefeuille d'un soldat allemand, il y avait un tiers de photos qui étaient consacrées à la famille, un tiers de photos qui étaient consacrées aux copains de l'armée, et un tiers de photos qui étaient consacrées aux tueries, dont ils avaient été les témoins. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a eu des reporters de guerre qui ont été envoyés avec les Einsatzgruppen et qui ont suivi l'avance allemande. Et ces hommes-là ont filmé. Donc il y avait certains des films étaient destinés aux Wochenshow. Vous savez, c'est le Die Wochenshow qui était en fait les actualités allemandes. Une autre partie était pour leur propre compte. Donc en fait, les familles allemandes se sont retrouvées avec des bandes. Alors, elles avaient plus ou moins de réticence à les garder et elles les ont parfois vendues ou parfois données. Et donc, en fait, il y a des banques de films amateurs. Et moi, j'ai été vers ces banques de films amateurs.
C'est incroyable. Ou en Allemagne, en l'occurrence ?
En Allemagne, oui, absolument. Et je me suis rendu compte qu'on avait filmé Ravaruchka. Donc j'étais vraiment très émue.
Les images du ghetto, c'est pas si elles font partie de...
Les images du ghetto font partie de ce lot de photos prises par des soldats allemands. Donc ça aussi, il y a une banque de photos que j'ai pu trouver. Ensuite, évidemment, quand je me suis baladée avec mon équipe, on a été dans plus de 8 sous-camps, comme Tarnopol, Zverginiak, Lvov, etc. Et donc, j'ai rencontré là aussi des gens qui m'ont permis de trouver des photos. Par exemple, il y a des tas de choses que je n'ai pas pu mettre dans un film de 60 minutes. À Tarnopol, quand les Italiens ont décidé d'arrêter, enfin de quitter leurs alliés allemands, en septembre 1943, donc en fait ils signent une trêve avec les alliés, immédiatement les Italiens qui avaient participé, qui étaient en Ukraine, est-ce qu'ils ont participé aux tueries? Très certainement, j'en sais rien, se sont retrouvés à la place des soldats français qu'on venait d'évacuer vers l'Allemagne. Et ils ont, il y avait des dessinateurs parmi eux, et il y a un album extraordinaire qui s'appelle « De Cannes à Tarnopol » et qui raconte le quotidien des prisonniers de guerre italiens à Tarnopol. Donc, en fait, je veux dire,
vous avez découvert une matière intarissable.
C'est extraordinaire. Et l'historien, par exemple, m'a remis entre les mains un journal qui avait été écrit par un habitant de Tarnopol, qui raconte comment les Juifs de Tarnopol, du ghetto de Tarnopol, ont essayé de se révolter au moment où on les envoyait à Belzec. C'est-à-dire qu'en fait, L'idée que les Juifs se sont laissés faire comme des moutons est une idée absolument fausse. Donc, on sait qu'à Lvov, ils se sont révoltés. On sait qu'à Tarnopol, ils se sont révoltés. On sait qu'à Presmil, ils se sont révoltés. C'était une révolte qui était destinée à l'échec. Mais je refuse qu'on raconte, qu'on répande cette rumeur qui est là, ancrée dans nos mémoires, à qui nous habite depuis qu'on est petit, c'est que les Juifs se sont laissés faire comme des moutons. C'est faux. Et il y a des traces.
Je vous remercie beaucoup, Shoshana Bukobza, d'être venue. Et puis, surtout, j'invite les auditeurs à aller voir votre film, donc Les Évadés de Ravarushka, qui a été réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui sera présenté en avant-première au Mémorial de la Shoah à Paris le 15 mai prochain à 16h30. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.